L'esprit critique. Mediapart.
Ted Conover est un écrivain américain spécialiste de ce qu'on désigne parfois par le journalisme d'infiltration. Après des études d'anthropologie, il s'était fait connaître en traversant l'Amérique en train à la manière des hobos, ces travailleurs sans domicile fixe naviguant d'un train de marchandises à un autre, en publiant un livre intitulé « Au fil du rail », devenu un classique de cette littérature. Il s'était fait ensuite passer pour un clandestin pour approcher la vie des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec son ouvrage « Les Coyotes », puis avait passé une année dans Sing Sing, la prison la plus célèbre des États-Unis. Cette fois, Ted Conover s'est rendu à partir de 2017 dans la vallée de San Luis, dans le Colorado, où vivent des personnes marginales, débranchées des réseaux et des infrastructures. Il en tire un récit intitulé « Là où la terre ne vaut rien », publié aux éditions du Sous-sol et traduit par Anatole Ponce-Remeau. Alors, Blandine Rinkel, que diriez-vous de cette écriture, est-ce qu'il faut l'appeler d'immersion, puisque Ted Conover en vient même à acheter une terre dans cette vallée pour vivre à peu près comme les personnages qu'il rencontre, tout étant peut-être dans cet à peu près, dans la mesure où il bénéficie par ailleurs d'un emploi, d'un salaire et d'une vie à New York qui fait qu'il ne sera jamais tout à fait comme les personnes qu'il voit et interroge.
Oui, la particularité de son entreprise dans ce livre, c'est quand même qu'il enquête auprès de gens qui ont vraiment la haine des journalistes. C'est quand même un geste étonnant, quoi. Il va dans des zones où il doit quand même signer des décharges pour confirmer qu'il n'est pas un journaliste. Quelque chose de risqué et d'étonnant. Enfin, il opère un déplacement. Et ça m'a saisi, moi, tout le long du livre, son inconfort en effet relatif, mais il toujours un pas de côté, il se met en inconfort, quoi. Et donc, il navigue quand même dans les imprévus.
Ça, j'entends dire tout de suite, il se présente pas comme journaliste, il se présente comme appartenant à il est bénévole dans une association d'aide.
Oui, La Puente. Et donc, il navigue dans les imprévus, là, il dort dans une caravane en se disant, mais la caravane s'envolera-t-elle? Est-ce qu'il se fera tirer dessus? Parce que là-bas, tout le monde détient des armes. Est-ce que ce Angelo, un habitant des plaines, qui s'échine à dire qu'il veut affronter les ours, se fera tuer pendant sa présence là-bas? Enfin, il y a quand même plein de questions, d'imprévus. Il est hésitant, quoi, dans sa présence sur cette terre. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, audacieux. Et on voit par là quand même qu'il a un vrai sens de l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire pas l'autre qu'on voudrait ramener pour qu'il soit le même, mais vraiment une curiosité de qui est celui qui ne nous ressemble pas. Et moi, ça fait très longtemps quand même que Ted Conover a cette curiosité-là. Moi, j'avais retenu de lui, donc je crois que c'était une interview dans la revue Feuilleton. Revue finie désormais.
Oui, là, l'interview on parle du passé.
Voilà, on parle du passé. Où il disait qu'il avait la sensation, il le disait en toute humilité, hein, mais qu'il avait la sensation parfois en parlant à des gens très différents d'activer une forme de vie démocratique. Et que c'était aussi en ayant cette mission-là en tête qu'il... Cette mission, le mot mission est peut-être un peu grand, mais voilà, en ayant ça en tête qu'il faisait ses reportages, mais aussi que dans la vie, il s'échinait à parler avec des gens avec qui c'est vraiment pas évident du tout de parler. Il dit d'ailleurs, je crois que c'est dans ce livre, hein, il dit qu'il cite le producteur de radio... Il est de notre devoir patriotique de voir de l'humanité chez les personnes avec qui nous sommes profondément en désaccord. Donc ce geste inévident, je l'ai trouvé très intéressant dans le livre.
Lise Wajmann, et notamment sur quelle morale de l'écriture cela enclenche, parce qu'on est à la fois effectivement quand même une galerie de personnages assez incroyable, hein, on va peut-être en évoquer quelques-uns, mais on commence en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il produit et comment il le fait, puisque donc il s'abrite derrière une entité dont on sent qu'il ne la révèle pas. Des fois, il montre la distance qu'il entretient avec les gens qu'il peut rencontrer. Des fois, il essaye au contraire de la réduire. Voilà, comment vous avez senti le point d'écriture où il se situait?
Oui, alors moi, je dois dire que j'étais un peu dubitative face au livre. J'ai un peu de mal à croire que, en effet, cet homme qui a pratiqué une écriture embarquée, avec succès, de manière assez incroyable pour ses livres précédents, j'ai un peu du mal à croire qu'il rêve vraiment, alors qu'il est par ailleurs professeur à New York, de vivre la vie de ces désespérés du fin fond de l'Amérique. Il y a quelque chose pour moi dans le geste, dans l'empathie de départ qu'il nous propose, qui ne m'allait pas complètement.
Lui-même. En même temps, il ne dit pas vraiment qu'il le rêve.
Il
veut le partager.
Il veut sa clôture.
Ouais.
Lui aussi,
oui,
il a
envie
découvre
de découvrir des paysages auxquels il ne s'attendait pas.
J'étais un tout petit peu sceptique sur. Mais ça lui donne en tout cas l'occasion de vivre plusieurs fois par an, plusieurs mois d'affilée, plusieurs années de suite auprès de ces gens. Et ça, c'est de fait, c'est un vrai geste de rencontre qu'il théorise en disant, à plusieurs reprises, hein, il rappelle qu'en gros, son principe, c'est qu'il faut regarder les périphéries pour comprendre le centre, ce qui est un vieux principe foucaldien par ailleurs.
Et là, c'est la périphérie des périphéries.
Là, c'est la périphérie des périphéries, puisqu'il faut quand même être clair, hein, il va voir des gens qui se sont achetés un petit morceau de terrain au fin fond du Colorado pour vivre une vie qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire déconnecté du réseau, déconnecté de presque tous les réseaux, c'est-à-dire sans gaz, courant, enfin sans acheminement, sans électricité, sans eau courante, sans égout. En revanche, je n'ai pas l'impression qu'ils soient du tout déconnectés des réseaux Internet, mais de ça, il n'est pas vraiment question.
Ils y sont par leur téléphone voilà. portable, en fait. Ouais. Ils restent...
Mais donc, il va voir des gens...
Et ils sont là parce que la Terre ne vaut rien. Hein.
La voilà, Terre ne vaut rien, et au fond, bon, il va voir des gens qui, visiblement, veulent revivre le mythe américain, le mythe du Far West... L'idée qu'ils vont dépendre de personne, qu'ils vont faire eux-mêmes leurs lois, ce qui suppose que donc tout le monde est surarmé et qu'on risque sa vie à simplement venir frapper à une porte, posséder un morceau de terre vierge, il y en a même qui jouent les chercheurs d'or. Et on comprend au fur et à mesure de la lecture qu'au fond, tout ce qui reste à ces hommes et ces femmes pauvres, voire franchement marginaux, c'est au fond, c'est peut-être l'orgueil de rejouer cette mythologie américaine complètement obsolète dans les décombres de la modernité. Mais moi, j'ai eu le sentiment que, d'une certaine façon, Ted Conover, lui aussi, il rejouait une mythologie américaine, c'est-à-dire celle des grands artistes qui ont donné à voir cette misère américaine, les photos de Dorothy Lange pendant la Grande Dépression, le livre de James Agee et Walker Evans, louons maintenant les grands hommes, qui documentait également ses vies de travailleurs très pauvres pendant la Dépression. Il illustre son texte à l'aide de photos dont on voit bien qu'elles font écho. D'ailleurs, lui-même ne se prive pas de le souligner, hein, parfois avec une légère ironie. Elles font écho à ses travaux photographiques sur les pauvres des années 30. Et donc, au fond...
Avec quand même une petite différence, c'est que... déjà, il n'a pas la puissance photographique de Walker Evans, c'est sûr, mais il me semble que...
Justement, je trouve qu'il y a une humilité dont vous ne faites pas part. dans le ton aussi, je trouve que, par exemple, son emploi de la première personne, donc son jeu de méthode, on en parlera plus tard, il l'emploie vraiment par souci d'exactitude et il se tourne quand même lui-même souvent en dérision. Je trouve que vous ne vous rendez pas à ça. Enfin, on le sent quand même obstiné, je trouve, à comprendre, à s'immerger, à voir aussi ce qu'il peut avoir de ridicule, lui, avec son mobilhome, à installer sa clôture. Il en a conscience, je pense.
Oui, quand, par exemple, il raconte qu'il est le seul à porter un masque pendant la pandémie de Covid, où à un moment, il voit des gens qui, effectivement, racontent des propos qu'on pourrait juger complotistes. Et il écrit « Je lui réponds que je lis généralement les informations dans le New York Times, ce qui provoque chez eux un échange de regards suggérant que je fais partie de cette caste d'imbéciles dont ils ont entendu parler, mais que jamais ils ne se seraient attendus à rencontrer dans la vraie vie. »
Oui, en ça, il y a un réel déplacement. Je pense que son empathie, elle s'exprime surtout là-dedans. En fait, au moment d'écrire, il se déplace et il voit comment il est vu, comment il pourrait être vu, en tous les cas. Et là, je trouve qu'il y a un... Oui, il échappe à l'orgueil que sa position pourrait induire.
Peut-être c'est le moment de l'entendre, Blandine Henkel.
Donc, ce que je vais lire, c'est Zara, donc une nouvelle habitante qui arrive...
Il a mis 3 ans à rencontrer. Hein. Il faut voir aussi la durée que quand même il sent vraiment dans le territoire. Pour en entendre parler, puis pour la rencontrer. Parce que tous ces gens, il faut imaginer, hein, c'est des caravanes, des mobilhomes ou des petites baraques, mais construites
très
loin,
isolées.
Très isolées les unes des autres. Il ne faut pas imaginer que
c'est le principe, tout le monde c'est la revendication,
se retrouve au café et qu'il suffit de se planter là pour parler avec différentes galeries de personnages.
Donc, il rencontre cette Zara qui vient d'arriver avec ses 6 enfants dans sa voiture et qui est originaire de Chicago. Je viens de passer la frontière du Colorado. On a changé de fuseau horaire et je me dis « Mais c'est quoi ce truc de fou ?» C'était la première fois que je voyais les étoiles d'aussi près. Je croyais que c'était des arbres avec des lumières. Alors je m'arrête et c'était des étoiles. Mais elles étaient tellement près qu'on aurait dit qu'elles bougeaient. Et je me dis « Ça peut pas être des arbres, ça bouge. » Elle appelle le roi, membre du groupe des nationalistes africains qui s'est installé dans la vallée comme un pionnier qui doit l'héberger. Je lui demande et il me dit « Non, non, c'est des étoiles. » Moi qui viens de Chicago, j'ai regardé la même étoile toute ma vie, genre toute ma vie. Et j'avais aucune idée que la Terre pouvait être aussi canon. Zara cherche une nouvelle vie dédiée à ses idéaux. Elle se considère comme panafricaine. Je suis pour la libération de l'Amérique noire. Écolière dans le South Side de Chicago, elle a grandi avec l'idée que l'histoire de son peuple a commencé avec sa mise en esclavage. Alors quand elle entend son responsable au Clarion Inn de Michigan City, un homme blanc, lui parler de l'histoire des peuples africains avant l'esclavage en Europe et en Amérique du Nord, elle a un déclic. Et, me dit-elle, je me suis mise en colère. Parce que je me disais, c'est un truc qu'on aurait dû m'apprendre avant. J'étais devant un blanc qui en savait plus que moi sur mon histoire et ma culture. C'était pas normal. Alors j'étais en colère. J'étais en colère contre le gouvernement parce que je me disais « Mais c'est des trucs que vous nous cachez exprès. » Genre, pourquoi il apprend des trucs dans son école, dans son quartier, alors que ça fait pas partie du programme de nos écoles à nous ? On nous apprend que tout a commencé avec l'esclavage pour nous. C'est ça qu'on croyait quand on était gosse.
C'est un personnage intéressant parce que il ajoute après que son histoire est un ajout inattendu à une histoire de génération d'Américains partis dans l'Ouest dans l'espoir d'une vie meilleure et que la vallée de San Luis, du coup où il se trouve, présente une partie du conservatisme politique de nombreuses régions rurales, mais que c'est entremêlé avec des récits familiaux qui viennent quand même bien d'ailleurs. Et alors qu'on pourrait s'attendre à voir dans cette vallée les white trash et les trumpistes, on a quelques personnages comme cette Zara qui prend ensuite un nom égyptien au nom d'un panafricanisme un peu fantasmé, et moi c'est là où quand même
c'est là où
il me semble qu'il y a quand même eu, même si ça s'inscrit évidemment dans la tradition de l'où maintenant les grands hommes, de ces grands reportages sur la pauvreté, c'est qu'il y a aussi vraiment une marginalisation choisie, un mode de vie à l'heure de l'effondrement écologique et du coup une diversité sans doute sociale qui fait que c'est pas simplement le journaliste new-yorkais qui débarque dans la vallée trumpiste reculée et qui, par des moyens éthiquement, des fois, en termes d'éthique journaliste, qu'on pourrait un peu remettre en cause, obtient des paroles abominables. C'est pas du tout ça. Il y a un art du portrait assez généreux.
Oui, et puis il y a une attention vraiment aux détails, aux détails parfois aussi qui ne sont pas directement intéressants ni significatifs pour ce que lui pourrait vouloir nous montrer ou nous prouver. Ça, j'ai trouvé ça éthiquement bien, qu'il rende compte. Alors, donc, quand je dis ça, par exemple, il parle de Sugar, le cacatoès abandonné, qui dit en permanence « Allez, viens, gros chien », qui répète ça, ce cacatoès. Il parle d'un cimetière d'animaux, il parle du surnaturel. Alors, ça rentre plus dans son propos du surnaturel, des ovnis. Mais il nous montre aussi que les malheureux sont pas, donc je le cite, les malheureux sont pas toujours vertueux. Il montre plein de détails qui ne servent à rien, qui montrent juste des vies dans ce qu'elles ont de plus singulier. Et en ça, c'est pas juste la volonté d'un journaliste qui voudrait, faire le portrait des white trash. C'est pas si programmatique que ça ne pourrait l'être. Et je trouve que cette humilité dans son écriture rend le livre assez passionnant.
Alors, après avoir défendu effectivement le fait qu'il y avait quand même plus d'humilité et parfois un peu d'autodérision, je vais aller de votre côté, Lise Wagemann. C'est vrai que. Non, mais parce que c'est vrai qu'on le sent hésitant. Et peut-être que d'ailleurs, on sent un peu l'épaisseur, c'est-à-dire qu'à la fois le temps qu'il lui a fallu pour écrire le livre, des fois, je pense qu'il y a différentes strates, différentes couches qui se voient et qui font que. C'est étonnant, à un moment, il dit il est parfois tentant d'imaginer que la vallée de San Luis, peu peuplée et loin des villes, existe hors du temps, hors des actualités, à l'abri du stress de la modernité. Bien sûr, cela tient du fantasme. Un tel lieu n'existe plus aux États-Unis au XXIe siècle. Et puis après, on se demande si c'est pas quand même ça qu'il vient chercher là quand il dit, au risque d'un peu d'exotisme, c'est un monde magnifique, sauvage et mystérieux, un havre pour les presque fauchés. C'est-à-dire que on sent cette tension entre humilité, envie de trouver l'exotisme, elle est là, elle est présente.
Oui, alors. Bon, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que dans le détail du texte, il y a des choses vraiment très belles. Moi, ce personnage de Zara, la suite de son histoire est tout aussi extraordinaire. Elle fait du roller derby, elle finit par tomber amoureuse d'un blanc. Contre son gré, parce qu'il noue sa chaussure exactement comme elle l'aurait fait elle-même. Il y a une photo de deux, ils sont sublimes. Elle est là avec ses six gosses en disant « Moi, je ne peux pas me permettre de m'abandonner à boire de la vodka parce que j'ai six enfants élevés. » Enfin, elle est géniale. Elle, tout de suite, c'est une figure, on l'aime. Il y a plein de moments comme ça dans le livre où on s'attache comme ça à des personnages très singuliers qui sont presque tout de suite « bigger than life ». Mais il y a aussi beaucoup de moments où je me suis dit « J'aurais préféré ». Peut-être que ce soit du vrai journalisme ou de la vraie sociologie, parce qu'il y a énormément de choses qui sont finalement laissées en suspens, en filigrane. Je prends un exemple, c'est la question des drogues. À la fin du livre, Ted Conover rapporte que sa femme lui a trouvé un titre, ce serait « La petite maison dans la prairie avec de la meth ». De la méthamphétamine. Alors, ce qui est très drôle et à la fois terrible, parce que au cours du récit, Conover souligne que beaucoup d'habitants cultive de l'herbe, ce qui est moins dangereux, mais il mentionne régulièrement le fait qu'il manque des dents à une telle ou à un tel, que ça signale sa probable consommation de meth. Mais il va jamais vraiment au-delà. Il note aussi que la consommation légale d'opioïdes a pris des proportions faramineuses dans le secteur, avec la bénédiction de l'entreprise qui les produisait. qui n'est pas le laboratoire pour Dieu, hein, il y en a encore d'autres. Mais il n'y a pas d'analyse, de vision d'ensemble, de commentaire politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, j'avais besoin qu'on sorte un tout petit peu justement du récit singulier et qu'on me donne un peu un éclairage d'ensemble. Et alors, curieusement, il le fait sur un point. Et enfin, c'est pas curieux, mais je me suis réjouie de ça. Mais il le fait historiquement. C'est-à-dire qu'il raconte comment ces terres ont été conquises petit à petit, gagnées sur le Mexique. Il raconte comment ces terres ont été le produit de ventes frénétiques dans un monde où le capitalisme est roi et où le marketing est inventif, c'est-à-dire en fait prêt à tout jusqu'à la franche arnaque, où il n'y a pas de régulation, ou alors elle est vraiment insignifiante. Mais donc, ça, on a cette recontextualisation-là. Mais en revanche, sur les gens qui vivent au présent-là, au fond, c'est comme si le respect pour eux interdisait d'avoir des considérations plus globales. Et pour moi, il me manque énormément de choses. Ne serait-ce que, par exemple, ils travaillent pour cette association, La Puente. Mais c'est quoi cette association? Elle sort d'où? Elle est financée par qui? C'est quoi son histoire?
Mais il ne peut pas tout faire. Ah, c'est une chaîne aussi.
Il le dit un peu. C'était un refuge pour sans-abri.
D'accord, mais pourquoi ça a un nom espagnol? Enfin, je ne sais pas, moi, je voudrais savoir d'où elle sort. Qui finance ça dans un pays où on sait que la puissance publique est si faible?
C'est à d'autres de s'en emparer. Enfin, je pense qu'il ne peut pas à la fois être sur le terrain, nouer vraiment des relations. Ça prend un temps fou, je pense. Réellement, il faut le mesurer, quoi, pour parler à des gens qui veulent absolument pas parler à des journalistes, qui sont très réticents. Et je pense que ça prend un tout fou et que c'est pas exactement le même exercice, en fait. Lui, là, c'est un exercice de reporter et de récit.
Là où la terre ne vaut rien, de Ted Conover, c'est publié aux éditions du Sous-Sol et traduit par Anatole Ponce-Remaud.
L'esprit critique. Mediapart.